c'est trop, Doc. Me retrouver ici, j'ai l'impression que c'était hier.
Mais c'était hier, tu étais ici hier. On a du mal à s'y faire, hein.
Content d'avoir parlé avec vous. On ne sait jamais, peut-être qu'on se rencontrera un jour futur.
Ou un jour passé.
Ben salut les voyageurs du temps, bienvenue au podcast À voyager dans le temps, édition de mars 2018. Aujourd'hui à PVT, on va se taper des souvenirs de l'année 1965, alors installez-vous confortablement. On part tout de suite côté musical avec une chanson de la formation Sam the Shame and the Pharaohs. C'est un disque qui a été nommé pour un Grammy Award, ce fut reconnu disque de l'année par le Billboard en 1965. Voici la pièce Wally Boley.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Appreciate you.
Oh yes, les Beatles avec la pièce Help. C'est une chanson qui est parue en single en juillet 1965. Ça a également été utilisé comme chanson-titre de leur cinquième album et également du film dont ils sont les vedettes. C'est le duo Lennon et McCartney qui a écrit cette chanson-là. C'est principalement écrit par John Lennon, mais McCartney raconte qu'il a apporté son concours parce qu'il a été appelé d'urgence par John Lennon. Et ça a pris 2 heures pour terminer cette chanson-là, donc McCartney a largement contribué à la pièce Help. Et pour débuter l'émission d'aujourd'hui, on a eu Shame and the Farrans, la pièce Wole Bole. Ceci étant dit, on part nos éphémérides de l'année 1965. On va parler du 4 janvier où c'est la mort de l'homme d'État, peintre et écrivain britannique Winston Churchill. Il est né le 30 novembre 1874. On dit que sa lucidité face au nazisme, son action décisive en tant que premier ministre du Royaume-Uni de 1940 à 1945, durant bien sûr la Seconde Guerre mondiale, joint à ses talents d'orateur et à ses bons mots, en ont fait un des grands hommes politiques du 20e siècle. Ne disposant pas d'une fortune personnelle, il tire l'essentiel de ses revenus dans sa plume. Ses dons d'écriture seront couronnés à la fin de sa vie par le prix Nobel de la littérature. Il est également un peintre estimé. Il est député durant la majeure partie de sa carrière politique, longue de près de 60 années, et occupe des postes ministériels pendant près de 30 ans. Avant la Première Guerre mondiale, il a été ministre du Travail, secrétaire du Home Office et premier lord de l'amirauté du gouvernement libéral d'Herbert Henry Asquith. À ce titre, il a participé à la création des premières lois sociales de son pays et à un mouvement visant à restreindre l'importance de la Chambre des Lords, deux éléments qui lui valent une forte inimitié de la part des conservateurs. Il reste à cette fonction jusqu'à la défaite britannique lors de la bataille des Dardanelles, dont il est tenu responsable, et ça provoque son éviction du gouvernement. Blanchi de ces accusations-là par une commission d'enquête parlementaire, il est rappelé comme ministre de l'armement, secrétaire d'État à la guerre et secrétaire d'État de l'air par David Lloyd George, alors premier ministre. On parle également du 7 février, on reste dans la politique, dans la guerre où les Américains bombardent le Nord-Vietnam. Après avoir fait évacuer les dernières familles américaines, l'US Air Force lance sa première offensive aérienne directe sur le Nord-Vietnam. Le but des États-Unis et du gouvernement sud-vietnamien est de mettre à mal les réseaux de ravitaillement en armes et en carburant du communisme du Nord. Ces bombardements marquent le début de la deuxième guerre d'Indochine et à partir du mois de mars, les Marines américains arrivent de plus en plus nombreux au Sud-Vietnam. On parle aussi du 23 février 1965 où le célèbre Stan Laurel du duo Laurel et Hardy, qui a été constitué en 1927, nous quitte. En fait, Stan Laurel a très mal survécu sans son acolyte Hardy décédé 8 ans plus tôt. L'acteur qui avait conservé sa nationalité britannique était frappé d'hémiplégie, une paralysie d'une ou plusieurs parties du corps d'un seul côté. Il ne pouvait d'ailleurs se déplacer que par des petits sauts. Il est décédé à l'âge de 75 ans à Santa Monica et contrairement à une idée répandue, Laurel était le cerveau du célèbre duo. Durant une carrière de près de 25 ans et de plus de 100 films, le duo Laurel et Hardy atteindra une notoriété telle qu'il reste sans doute à ce jour le tandem le plus célèbre de toute l'histoire du cinéma. Débutant avant l'avènement du cinéma parlant, Laurel et Hardy font partie des rares acteurs ayant atteint une certaine notoriété durant l'ère du muet et bien sûr aussi à réussir brillamment la transition entre le cinéma sonore et le cinéma muet. La première comédie parlante de Laurel et Hardy sort dès le mois de mai 1929. Voilà pour cette première séquence d'éphémérides. On poursuit côté musical avec les Beach Boys, la pièce Help Me Rhonda. On dit que c'est la première version de la chanson qui est enregistrée en janvier 65 et qui paraît au mois de mars sur l'album Today. C'est le deuxième numéro 1 du groupe, mais auparavant, on aura la célèbre formation de Rolling Stone avec I Can Get No Satisfaction. Pour leur part, c'est l'une des chansons les plus connues du groupe. Ça joue systématiquement sur scène, mais aussi un titre pop emblématique des années 1960. Alors voici I Can Get No Satisfaction. We'll be right back. Ben ça donne le goût d'être confortablement installé sur une plage, au soleil, les pieds dans l'eau, évidemment, avec un petit verre à la main. On vient d'entendre les Beach Boys et la pièce Help Me Rhonda. Et comme promis, tout juste avant, les Rolling Stones, les célèbres Rolling Stones, avec I Can Get No Satisfaction. Bon, ben c'est assez côté musical pour le moment. On poursuit avec nos petites éphémérides. On parle du 3 février où la sonde soviétique Luna 9 est le premier engin spatial à se poser sur la Lune. Luna 9 fait partie du programme Luna, qui comprend plus d'une quarantaine de missions robotiques lancées entre 1959 et 1976 par l'Union soviétique, et tout ça pour étudier la Lune. Les objectifs du programme sont en partie dictés par des considérations politiques, soit la course à l'espace qui oppose les Soviétiques et les Américains, et ça vise également à démontrer la supériorité du savoir-faire de chaque pays à travers, bien sûr, leur régime politique. La recherche des premières prend parfois le pas sur les objectifs scientifiques, et le responsable du programme soviétique, Sergei Korolev, veut réussir un atterrissage en douceur sur le sol lunaire. Pour y parvenir, il fait développer une variante plus puissante du lanceur Luna. La nouvelle fusée baptisée Molnia dispose d'un troisième étage plus puissant et d'un quatrième étage. Grâce à cette configuration, elle peut placer 1,5 tonnes sur une orbite de transit vers la Lune. Pour remplir sa mission, le lanceur commence par se placer en orbite basse autour de la Terre. Puis après une période de vol non propulsé, le quatrième étage est allumé pour placer la sonde spatiale sur sa trajectoire vers la Lune. On parle aussi du 1er mars où au Québec est fondé le Service d'immigration du Québec. On dit que dès 1965, la province du Québec crée ce service-là, mais il faut attendre par contre le 5 novembre 1968 pour qu'il soit officiellement en fonction. Quelques mois avant l'adoption du projet, le ministre fédéral de la Citoyenneté et de l'Immigration, M. Jean Marchand, ainsi que le secrétaire du Québec, Yves Gabias, expliquent les raisons d'être de ce nouveau portefeuille au micro de l'émission La Revue de la Semaine. Au cours des années 1960, le Québec connaît des problèmes de dénatalité et une baisse de l'immigration issue des pays francophones. L'avenir du français dans la province inquiète le gouvernement québécois, qu'il soit libéral sous Jean Lesage en 1965 ou encore unioniste sous Jean-Jacques Bertrand en 1968. Donc, la mise sur pied d'un ministère de l'immigration devient donc essentielle afin d'élaborer leur propre politique d'accueil des immigrants. On parle aussi du 20 mars où la célèbre chanteuse France Gall remporte l'Eurovision. La jeune chanteuse française qui concourt pour le Luxembourg gagne le Grand Prix Eurovision de la chanson. Il y a 150 millions de téléspectateurs qui découvrent en direct de Naples le titre gagnant écrit par Serge Gainsbourg, Poupée de cire, poupée de son. La chanson connaîtra un très grand succès en France et au Benelux. On se rappelle malheureusement son décès survenu le 7 janvier dernier. On poursuit côté musical avec une pièce de la formation Les Temptations, la pièce My Girl. C'est une chanson forte du groupe et elle est sortie en 1964 pour le label Motown. Elle devient un hit par contre l'année suivante en 1965. C'est écrit par Smokey Robinson et Ronald White. Elle devient le premier gros succès du groupe. Elle est inspirée par Smokey Robinson et son épouse Claudette Rogers, qui à l'époque était chanteuse des Miracles. Alors voici Les Temptations et My Girl. Talking about my girl, my girl. Ben voilà la musique qu'on vient de s'offrir dans un premier temps, les Temptations, la pièce My Girl. Et on vient tout juste de s'offrir les Supremes avec la pièce Stop in the Name of Love. C'est sorti le 8 février 1965 aux États-Unis. En fait, c'est le single qui est sorti le 8 février sous le label Motown avec la pièce I'm in Love Again du côté B. Parce qu'on se rappellera dans ce temps-là pour les gens de mon âge. À l'époque, les disques, ben, c'était 45 tours, 35 tours, et chaque côté, il y avait une chanson. Donc, du côté B, c'était la pièce I'm in Love Again. Et cette chanson-là, là, In the Name of Love, ça s'est situé numéro 1 au Billboard. Ça a été nommé également aux Grammy Awards l'année suivante. Côté éphéméride, maintenant on poursuit avec le 21 mai où c'est le dépôt de la loi créant la Régie des rentes au Québec. C'était un organisme du gouvernement québécois qui contribuait à la sécurité financière des Québécois. Son administration était confiée à un conseil d'administration formé de 15 membres nommés par le gouvernement. Elle gérait notamment le régime des rentes du Québec, donc la RRQ. Et le 1er janvier 1966, après 2 ans de pourparlers entre les gouvernements provinciaux et fédérale, le régime des rentes du Québec entre en vigueur. Dès sa fondation, la Régie a également le mandat de faire appliquer la loi sur les régimes supplémentaires de rente. Sa première tâche consiste à faire l'inventaire des régimes privés existants et à procéder à leur enregistrement pour s'assurer qu'ils respectent les exigences de la loi. Il y a plus de 4000 régimes qui sont enregistrés entre 1966 et 67, et le 30 janvier 67, le premier chèque de rente de retraite est remis à un certain monsieur Roger H. Tachereau de Québec. On parle aussi du 1er juillet où une manifestation violente se déroule au parc La Fontaine à l'occasion de la fête de la Confédération. Il y a 105 arrestations. Pendant ce temps-là, une bombe explose contre un mur de l'hôtel de ville de Westmount. Le FLQ est soupçonné. Le FLQ, ou si vous préférez, le Fonds de libération du Québec, est le nom collectif utilisé par un réseau de cellules autonomes qui prônait l'action directe, souvent violente, pour réaliser l'indépendance du Québec. Certaines de ces cellules ont été responsables d'actes terroristes. Ça a été fondé au cours de l'année 1963. Il a surtout organisé ses activités à partir de Montréal. Ce mouvement clandestin a réclamé une insurrection d'inspiration socialiste, le renversement du gouvernement du Québec, l'émancipation des Québécois face au Canada et l'établissement d'une société de travailleurs. On va parler aussi du 16 juillet où c'est l'ouverture du tunnel sous le Mont-Blanc entre la France et l'Italie. Lors de l'inauguration en 65, c'était le plus long tunnel routier du monde. Le tunnel du Mont-Blanc est constitué d'une galerie unique à double sens de circulation. Le doublement du tunnel projeté n'ayant jamais été réalisé pour des raisons d'abord de financement, puis d'opposition farouche des riverains côté français en raison des nuisances dues à la circulation intense des poids lourds. Il a permis une réduction du parcours de Chamonix vers Aoste de 60 km et surtout de ne plus dépendre de la fermeture hivernale des cols alpins, facilitant ainsi les déplacements entre la France et l'Italie. On se lance en musique avec la pièce Splish Splash de César et les Romains. Ah oui, on voit un petit peu de français. Mais auparavant, on s'offre Hang On Sloopy de McCoy. C'est une chanson qui a été écrite par Wes Farrell et Burt Russell. Elle a été enregistrée pour la première fois en 64 par le groupe de soul The Vibrations sous son titre original My Girl Sloopy. Sa version la plus célèbre est celle des McCoy, donc celle qu'on va entendre dans les prochaines secondes. Elle s'est classée en tête des ventes aux États-Unis en 1965. Alors voici Hang On Sloopy. I'm in love with you. So I say
prenant mon bain. Vers le verre un samedi soir. Vive là, je me sentais si bien. J'avais vidé le réservoir. Dès que je mets les pieds sur le plancher tout froid, je prends une serviette, la roule autour de moi. Et soudain, splish splash, je plonge dans mon bain. Je ne me doutais pas que tous les copains étaient là. C'était une partie surprise. Je trémousse à tous mes amis. Mes plats et danser le yaya. Le monkey est aussi le ska. Avec tous les disques sur le bono. Les amis de nos amis sont de nos amis. Et moi, splish splash, je ressortis du bain pour chahuter avec tous les copains. J'étais une partie surprise. Juste en pleine crise. Ma place est reprise. Tant pis pour ma chemise.
C'est le ska, montre-moi le nouveau pas. Y'a personne qui bouge comme toi. Dis Manon, viens danser le ska. Manon, viens danser le ska. Montre-moi le nouveau pas. Y'a personne qui bouge comme toi. Dis Manon, viens danser le ska. Je connais une fille que j'aime bien. Elle est l'envie de tous les copains. Quand je la vois, j'ai le cœur qui bat. Oh, dis Manon, viens danser le ska. Manon, viens danser le ska. Montre-moi le nouveau pas. Y'a personne qui bouge comme toi. Dis Manon, viens danser le ska. Manon, viens danser le ska. Montre-moi le nouveau pas. Y'a personne qui bouge comme toi. Dis Manon, viens danser le ska. J'ai invité Pauline pour un cha-cha. La belle Janine pour une samba. Et maintenant pour le nouveau pas. C'est toi Manon, la reine du ska. Manon, viens danser le ska. Montre-moi le nouveau pas. Y'a personne qui bouge comme toi. Dis Manon, viens danser le ska. Manon, viens danser le ska. Montre-moi le nouveau pas. Y'a personne qui bouge comme toi. Dis Manon, viens danser le ska. Manon, viens danser le ska. Montre-moi.
Un petit bloc musical un peu plus long, on a eu un doublé francophone avec en première partie de ce bloc musical-là, les McCoy, la pièce Hang On Sloopy. Ça a été suivi de César et les Romains, la célèbre pièce Splish Splash, chanson de rock'n'roll hein, de Bobby Darin à l'origine. Il dit que cette chanson humoristique-là, il l'a écrit en moins de 12 minutes. Et on vient d'entendre Donald Lautrec avec Manon, viens danser le ska. On poursuit avec des petits faits historiques. On parle du 9 novembre où il y a une panne de courant qui est une importante perturbation dans le réseau électrique. Ça a eu lieu le 9 novembre, bien sûr, 1965. Cette panne-là a affecté une partie de la province de l'Ontario au Canada, ainsi que les États du Connecticut, du Massachusetts, du New Hampshire, New Jersey, New York, le Rhode Island, la Pennsylvanie et le Vermont. Il y a plus de 30 millions de personnes réparties sur 207 000 km² qui ont été privées d'électricité pendant près de 13 heures. Il y a 800 000 usagers qui ont été bloqués dans le métro new-yorkais. Aux États-Unis, la panne d'électricité a plongé New York dans le noir et prive de courant plus de 30 millions de personnes pendant plus de 10 heures. L'événement démarre dans l'Ontario, au Canada, en raison d'une défaillance d'un relais électromécanique. Cette panne s'est ensuite propagée en seulement quelques minutes sur une grande partie du réseau électrique de la région. La rapidité de la coupure a notamment eu pour conséquence de bloquer 800 000 usagers tout le long du métro de New York. Cependant, contrairement à celle de 1977 à New York, il y a peu de mouvements de foule et de pillages qui sont observés au cours de la panne, ce qui lui vaut d'être un événement caractérisé par l'entraide. La panne de courant nord-américaine de 2003 fait naître la même coopération. À la suite de cette importante panne, des mesures ont été vainement prises afin que ce genre de perturbation ne se reproduise plus. On va aussi parler du 13 juillet où en France, la femme est libre de travailler. Il y a une loi qui est promulguée et permet à la femme de travailler sans l'accord de son mari. Elle autorise également les épouses à gérer leurs biens librement. Elles peuvent désormais ouvrir un compte à leur nom, même contre l'avis de leur mari. En 1938, l'incapacité de la femme mariée, citée dans le Code civil de 1804, avait déjà été supprimée, affaiblissant la domination de l'homme sur son épouse. On va parler aussi du 7 septembre où au Québec se passe un événement tragique. Il y a 12 ouvriers qui sont tués lors d'une explosion sur le chantier de construction du pont de Trois-Rivières, donc le pont de la Violette. Le mardi 7 septembre fut une journée funeste sur le chantier. Le premier pilier, le caisson numéro 2, situé sur le côté nord à 780 pieds de profondeur dans l'eau, explose à 16h05, heure exacte de la déflagration. L'accident a causé la mort de 12 hommes cette journée-là. 6 d'entre eux travaillaient sur le caisson alors que les autres étaient à l'intérieur. Les dépouilles des ouvriers qui travaillaient à l'extérieur ont été repêchées peu après le drame, tandis que le reste des 6 autres victimes à l'intérieur du caisson ont été récupérées plus d'un an après. Heureusement que ça ne s'était pas produit la veille, qui était le jour de la fête du travail, car à ce moment-là, il y avait 150 ouvriers sur le caisson. Alors, pour leur rendre hommage, je vous nomme les victimes. Il y avait M. Michel Dalcourt, 21 ans, Régent Pouliot, 24 ans, Jean-Guy Bolduc, 27 ans, Vénéric Cloutier, 32 ans, Normand Cloutier, 24 ans, Léopold Bédard, 28 ans, Gilles Arvizet, 28 ans, Raymond Hamel, 40 ans, M. Bruno Landry, 40 ans, Laurier Gagnon, 26 ans, John Henry Rees, 28 ans, et M. André Gauthier, 24 ans. On parle aussi du 29 novembre, où à 13h43, le premier ministre du Québec, M. Jean Lesage, actionne une manette au poste électrique de Lévis d'Hydro-Québec, mettant sous tension la première ligne de transport d'électricité à 735 kV au monde. C'est un projet qui a été initié par l'ingénieur Jean-Jacques Archambault. Et on parle aussi de M. Frank Herbert qui imagine le film Dune. L'écrivain américain Frank Herbert publie le premier volet du cycle de Dune. Il imagine un monde futuriste où la principale richesse est l'épice. Cette substance qui prolonge la vie et déculpe les facultés psychiques ne se trouve que sur la planète appelée Dune, faite uniquement de sable. Dans cet univers, tout ce qui révèle de l'intelligence artificielle est totalement banni, permettant à l'homme de développer de nouvelles capacités mentales. Mêlant les thèmes de la survie humaine et de l'écologie au cœur de multiples conspirations, l'œuvre d'Herbert sera récompensée par le prix Nebula en 1965 et le prix Hugo en 1966. Le film Dune sera adapté en 1984 par David Lynch. Ceci étant dit, on poursuit côté musical avec une petite pièce Frode-Baden, tiens, pourquoi pas. Les Righteous Brothers nous offrent Unchained Melody, c'est une chanson de 1955. Avec plus de 500 versions différentes, elle est l'une des chansons les plus enregistrées du 20e siècle. Entre autres, elle figure sur la bande originale du film Mon fantôme d'amour. Alors voici Unchained Melody. Oh, my.
Time goes by. so much on you. Still more I need your love. I need your love. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home, wait for me.
Comme promis, on vient d'entendre les Wright House Brothers, la pièce Unchained Melody, tirée du film Mon fantôme d'amour. Quand on écoute ça, on se rappelle tous la scène où Demi Moore et Patrick Swayze font de la poterie ensemble. Hein? En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce film-là, puis vous allez comprendre de quoi je parle. Ceci étant dit, on va continuer avec un petit peu de blabla, on va parler de sport, qu'est-ce qui s'est passé en 1965, on va regarder, on va faire un survol d'ensemble. Premièrement, on parle de football, où l'American Football League, l'AFL, ben, le championnat, c'est les Bills de Buffalo qui l'emportent sur les Chargers de San Diego, par la marque de 23-0. Du côté de la NFL, la National Football League, ben c'est les Packers de Green Bay qui l'emportent sur les Browns de Cleveland, 23-12. À cette époque-là encore, ben le football n'était pas fusionné, donc l'American Football League et la National Football League étaient tous les deux des ligues indépendantes. Au baseball, il y a les Houston Colt 45 qui changent de nom pour devenir les Astros de Houston. Et les Dodgers de Los Angeles gagnent la Série mondiale sur les Twins du Minnesota par la marque de 4 matchs à 3. Du côté de la NBA, ben, il y a les Celtics de Boston qui l'emportent sur les Lakers de Los Angeles par la marque de 4 parties à 1. On va parler de nouveau de football, mais cette fois-ci de football universitaire où on présente pour la première fois la Coupe Vanier. Le Toronto Varsity Blues qui l'emporte sur les Golden Bears de l'Alberta 17-7. Du côté de la Ligue canadienne de football, ben, la Coupe Grey, c'est les Tiger Cats de Hamilton qui l'emporte 22-16 sur les Blue Bombers de Winnipeg. Hockey, ben oui, il faut parler de hockey, c'est sûr. Il y a les Canadiens de Montréal qui sont champions et gagnent la Coupe Stanley sur les Blackhawks de Chicago par la marque de 4-3. Chose qu'on n'est pas prêt de revoir, une Coupe Stanley à Montréal, la manière que c'est parti là. Ceci étant dit, on va parler aussi de course automobile, où ben, c'est la 13e saison du championnat du monde de voitures de sport, la WSC, qui aujourd'hui est maintenant la FIA. Il est ouvert aux voitures de sport et sport prototype qui vont courir à travers le monde dans des courses d'endurance, ainsi qu'aux voitures de grand tourisme. Il s'est couru du 28 février 65 au 19 septembre 1965 et ça comprenait 20 courses. Au cinéma, ben, qu'est-ce qui est sorti côté cinéma en 1965? On a La Mélodie du Bonheur qui est sorti le 2 mars. C'est réalisé par Robert Wise, sa mère vedette Judy Andrews et Christopher Plummer. Il y a également Les Tontons Farceurs qui est sorti le 1er juillet, réalisé par Jerry Lewis. Ça met bien sûr en vedette Jerry Lewis et Donna Butterworth. Il y a le célèbre Docteur Jivago qui est sorti le 22 décembre 65, réalisé par David Lean et en vedette Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin et Rod Steiger. Et finalement, le film Opération Tonnerre, sorti le 9 décembre 65, réalisé par Terence Young et ma vedette Sean Connery, Claudine Auger, Luciana Paluggi et Bernard Lee. Et pour conclure l'émission, du côté des naissances, les personnalités connues qui sont venues au monde en 65, il y a Marina Orsini le 4 janvier, animatrice et qui a été connue bien sûr dans la série L'an 50. Le 1er février, Marie-Chantal Perron, la célèbre comédienne. On a le 12 mars, Ricardo Larrivée, un cuisinier. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus longuement? Tout le monde connaît Ricardo. Le 12 juillet, Bruni Surin, un sprinteur. Le 6 août, l'animatrice et productrice Julie Schneider. Le 5 octobre, Jean-René Dufort, qui est animateur. On le connaît, bien sûr, grâce à Infoman. Et le 17 décembre, nul autre que Vincent Danfous, joueur de hockey, ancien capitaine du Canadien de Montréal. Ben voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui sur l'année 1965. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite bien sûr à être des nôtres le mois prochain pour une autre édition du podcast À voyager dans le temps. Merci à tous ceux et celles qui prennent la peine de télécharger mon podcast et de l'écouter. Moi, je le fais pour m'amuser, mais c'est encore plus intéressant de savoir que des gens le téléchargent sur une base régulière. Parlant de téléchargement, les plateformes où vous pouvez télécharger le podcast, iTunes, Google Play Music. Vous pouvez également aller sur le site qui héberge mon podcast baladoquebec.ca et je vous invite, bien évidemment, à joindre ma page Facebook. Ceci étant dit, on se quitte en musique avec deux bonnes pièces musicales. On va entendre la formation de Searcher avec Love Potion No. 9. Mais tout de suite, voici James Brown et Papa's Got a New Bag. Bye tout le monde! We'll be right back.
took my troubles down to Madame Rue. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a pad down a petticoat and vine, selling little bottles of love potion number 9. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9.
Love potion number 9. Love potion number 9.